Aujourd'hui, nous allons poursuivre une série de prédications sur les cinq missions de l'Église. Alors, nous avons déjà vu l'adoration, l'édification, la communion fraternelle, et aujourd'hui nous parlerons de l'évangélisation. Jésus a dit à ses propres disciples, les dernières paroles de Jésus, « Faites de toutes les nations des disciples ». Et pour qu'il y ait des disciples, il faut bien évidemment, avant que l'Évangile ait été entendu, donc l'Évangile ait été annoncé. C'est ce que dit Paul en Romains 10, 14. Paul dit « Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» L'annonce de l'Évangile, l'évangélisation, est donc bien une des missions de l'Église, une mission que Dieu a confiée à ses disciples. Mais l'évangélisation, qu'est-ce que c'est ? Alors, évangile vient d'un mot grec qui signifie « bonne nouvelle ». Parce que notre cœur n'était pas tout entier à Dieu, nous étions séparés de lui. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est vraiment une triste nouvelle. Qui que nous soyons, nous sommes pécheurs et nous sommes condamnés à la mort éternelle. Mais tout n'est pas désespéré, il y a une bonne nouvelle, et elle vient par Jésus-Christ. Nous étions incapables de nous élever jusqu'à Dieu. Bonne nouvelle! Jésus s'est abaissé jusqu'à nous. Nous étions perdus. Mais bonne nouvelle, Jésus est venu nous chercher. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Bonne nouvelle, Jésus nous offre la vie éternelle. Nous étions esclaves du péché. Bonne nouvelle, Jésus nous offre la liberté. Nous étions des ennemis de Dieu. Bonne nouvelle, Jésus nous offre la possibilité de devenir les enfants de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Bonne nouvelle, Jésus nous offre la communion avec Dieu. Nous étions incapables de satisfaire les exigences de Dieu par nos propres œuvres, par nos propres forces. Bonne nouvelle, Jésus nous offre le salut par grâce, par le moyen de la foi. Évangéliser est donc annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Notre premier point est donc également la définition du mot évangélisation. L'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous pouvons annoncer l'Évangile de bien des manières. La Bible nous révèle le contenu de la bonne nouvelle, le contenu de l'Évangile, mais la Bible ne nous dit pas comment nous devons évangéliser. Tout au plus, la Bible nous donne des exemples, elle nous donne la manière par laquelle Jésus, Pierre, Philippe, Paul ont annoncé l'Évangile. Il y a donc une multitude de moyens, de manières d'annoncer l'Évangile. Mais pourtant, parfois, nous restreignons l'évangélisation à une pratique précise, à une forme bien codifiée, clairement identifiable. Pour que ce soit vraiment de l'évangélisation, il faudrait que ce que nous faisons porte une étiquette avec écrit « évangélisation » dessus. Alors, campagne d'évangélisation, réunion d'évangélisation, action d'évangélisation, etc. Restreindre l'évangélisation à ces quelques pratiques ponctuelles et officielles serait une erreur. L'évangélisation est bien plus large et bien plus diverse que cela. Et heureusement. Et pourtant, la semaine dernière, j'ai commis cette erreur. Alors, il y en a qui font oui, il y en a qui s'en souviennent. Est-ce que vous vous souvenez, au cours de sa prédication, David Dixon, il a posé une question. Est-ce que vous vous souvenez de sa question ? Oui. Voilà, faites-vous de l'évangélisation dans l'Église. Bon, Et moi, j'étais là, ici, là. Et qu'est-ce que j'ai répondu, moi? Alors, David était étonné. Vous ne faites pas l'évangélisation, David? Non, on ne fait pas d'évangélisation. Et il a même, voilà. Ah, mais c'était déjà prévu depuis des semaines. Hein. Et il a même rajouté, comme ma réponse, le questionnaire. Il a dit, je pense que tu n'as pas bien compris la question. En fait, j'avais bien compris la question, mais j'avais restreint l'évangélisation à une forme officielle, bien codifiée. Et c'était une erreur, et d'ailleurs je vous en demande pardon, parce que cela n'a pas mis en lumière tout le travail d'évangélisation qui est accompli dans cette Église. Travail formidable. Est-ce que notre Église fait de l'évangélisation ?
Oui.
Oui. Heureusement vous êtes là. Et vous auriez pu dire oui, hein, c'est pas parce que je dis quelque... Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. J'essaye, hein, mais... Oui, notre Église fait bien de l'évangélisation et de multiples manières. Déjà, l'évangélisation auprès des enfants. Nous ne devons pas oublier que les enfants qui viennent à l'Église, à part peut-être quelques-uns d'entre eux, ne sont pas chrétiens, ne sont pas convertis. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de chrétiens que l'on est converti. Et chaque semaine, les enfants reçoivent un enseignement adapté à ce qu'ils sont, à là où ils en sont. L'ouverture vers l'extérieur. Nous faisons de la pré-évangélisation, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire où nous organisons des expositions, des fêtes, fêtes des voisins, fêtes de Noël. L'accueil dans l'Église. Est-ce que toutes les personnes ici présentes, dimanche après dimanche, sont converties ? On peut le souhaiter, mais je pense que non. L'accueil, c'est important. Dire, mais nous accueillons des gens qui sont en chemin. Bienvenue. Faisons des cultes spéciaux. La fête de Noël. Actuellement, il y a divers événements qui sont en préparation. Vous entendrez probablement bientôt parler. La fête de l'été, la soirée Saint-Valentin. Nos cultes aussi, où nous essayons d'avoir un langage simple. De ne pas parler ce qu'on appelle le patois de Canaan, on ne comprend rien, quoi. Nous essayons de faire en sorte que même les gens qui ne sont pas habitués au texte biblique puissent comprendre ce que l'on dit. Les cultes à Montblanc, la maison de retraite, qui sont des cultes d'évangélisation. Le stand biblique du livre vivant au marché. L'affichage dans la rue, les groupes de maisons, de pré-ados, les groupes divers, qui des fois même d'ailleurs ne sont même pas connus dans l'Église, les gens qui reçoivent chez eux, qui reçoivent dans le souci de partager l'Évangile. Et puis il y a toute la partie immergée, donc la plus importante de l'iceberg, qui est l'essentiel de l'évangélisation que les uns et les autres nous faisons auprès de notre famille, auprès de nos amis, de nos voisins, de nos collègues ou d'inconnus. L'évangélisation ne se limite donc pas à quelques pratiques bien définies et ponctuelles. L'évangélisation n'est pas non plus réservée à quelques-uns d'entre nous, les spécialistes. Le salut en Jésus-Christ est une bonne nouvelle que nous sommes tous encouragés à partager de multiples manières avec ceux que Dieu met sur notre route. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée 1,7 ou bien à lire le passage qui sera projeté. 2 Timothée 1,7 et 8. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il est interpellant de constater qu'à toutes les époques de l'histoire, que dans toutes les cultures, et quel que soit le pays dans lequel nous regardons, que ce soit des pays où il y a la liberté religieuse, ou bien des pays où l'Église est persécutée, les chrétiens ont toujours continué à témoigner de leur foi. Ils ont témoigner, partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et heureusement pour nous, Car si les chrétiens, les générations de chrétiens qui nous ont précédés n'avaient pas ainsi partagé l'évangile avec ceux qui le rencontraient, peut-être que nous ne serions pas ici ce matin, dans cette église. Si nous avons nous-mêmes rencontré Jésus, partagé l'évangile est devenu un désir de notre cœur. Et c'est normal, puisque lorsque l'on rencontre Jésus, nous recevons une nouvelle nature, nous recevons l'Esprit de Dieu, et cet Esprit nous pousse à partager l'Évangile que nous avons nous-mêmes reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. D'où notre second point, l'Esprit de Dieu nous pousse à évangéliser. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas un esprit timide, ce n'est pas un esprit lâche, ce n'est pas un esprit de crainte. Au contraire, l'Esprit de Dieu qui vit en nous est un esprit audacieux, un esprit conquérant, un esprit qui veut faire connaître à d'autres la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors il y a maintenant en nous ce désir que d'autres que nous puissent entendre également cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors bien sûr, il ne faut pas nier, il y a notre propre timidité et notre propre crainte peut nous freiner dans l'annonce de l'Évangile. Et en France, par exemple, nous sommes un pays laïque où il y a la liberté religieuse, donc nous nous en réjouissons. Et par exemple, en France, il y a une vraie difficulté à parler de notre foi, parce qu'en France, quelque part, c'est tabou. La foi, c'est une sphère privée. Et si la personne elle-même n'en parle pas, il n'est pas bien vu d'amener la personne sur ce terrain. Dans d'autres cultures, c'est très facile de parler de Dieu. Les gens sont prêts à parler de Dieu facilement. En France, c'est une vraie difficulté. C'est également une vraie difficulté et qui parfois nous freine dans l'annonce de l'Évangile, c'est que cette bonne nouvelle que les gens peuvent recevoir le salut par Jésus-Christ implique qu'auparavant, il faut que nous amenions les gens ou que les gens aient conscience qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont perdus. Je discutais il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Bernard, avec quelqu'un qui a annoncé l'Évangile comme ça dans la rue, et il disait, mais maintenant, contrairement à quelques années, je ne peux plus dire aux gens qu'ils sont sauvés, parce que les gens, de toute façon, n'ont pas conscience qu'ils sont perdus, et qu'il faut d'abord commencer par annoncer aux gens qu'ils sont perdus. Et dire à quelqu'un comme ça, un inconnu ou un ami, mais tu es super, mais tu n'as pas d'espérance devant toi. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc ça, c'est vrai, ce sont des vraies difficultés. Mais nous devons malgré tout être conscients que puisque maintenant, si nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous avons une nouvelle nature, il y a maintenant en nous une aspiration profonde à partager l'Évangile. Et cette aspiration ne sera satisfaite que lorsque nous le ferons ça. Ça fait partie maintenant des choses importantes pour nous. Et étouffer ça, c'est perdre quelque chose aussi que nous avons maintenant dans notre cœur. Nous ne savons peut-être pas comment évangéliser. Nous avons peut-être quelques craintes à annoncer l'Évangile. Mais en tout cas, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous ne l'avons pas étouffé, nous avons maintenant en nous le désir d'annoncer l'Évangile. Pour un chrétien, la question à se poser n'est donc pas « Est-ce que je dois annoncer l'Évangile ?» mais plutôt « Comment, de quelle manière vais-je pouvoir annoncer l'Évangile ?» De quelle manière vais-je pouvoir satisfaire ce désir de mon cœur de partager l'Évangile ? Annoncer l'Évangile est une chose, que l'Évangile que nous avons annoncé soit reçu en est une autre. Et nous pouvons aussi être découragés si nous ne voyons pas se convertir ceux à qui nous avons annoncé l'Évangile. Doublement découragés, découragés parce que ceux qui ont entendu l'Évangile restent loin de Dieu, malgré ce que nous leur avons annoncé. Ils ne se convertissent pas. Et c'est une souffrance pour nous. Mais aussi découragés parce que nous avons annoncé l'évangile et nous ne voyons pas comment nous pourrions mieux faire. Nous aurions probablement raison d'être découragés si l'évangélisation reposait sur nos propres capacités à convaincre, mais ce n'est pas le cas. L'évangélisation ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la puissance de Dieu. C'est notre troisième point. L'évangélisation ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant. Et aussi parce que notre Dieu nous a donné son esprit, et pas n'importe quel esprit, un esprit de force. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit de force. Et par son esprit qui vit en nous, Dieu peut faire deux choses. Dieu peut nous encourager à persévérer. Nous avons des fois vraiment besoin d'être encouragés dans notre annonce de l'évangile. Parce que parfois nous n'en voyons pas le fruit. Nous sommes tentés d'abandonner. Mais par son esprit, Dieu nous donne la force de continuer. L'esprit de Dieu nous dit, continue, ne te décourage pas, persévère. Et puis surtout, l'Esprit de Dieu, et lui seul, peut faire une chose. Il peut ouvrir les cœurs de ceux à qui nous avons annoncé l'Évangile, de façon à ce que justement leur cœur s'ouvre à Jésus. Ce n'est pas notre capacité de persuasion, ce n'est pas notre habileté à présenter les choses qui ouvre les cœurs. Seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir les cœurs. Et l'Esprit de Dieu à la force d'ouvrir même les cœurs les plus fermés, même les cœurs les plus imperméables, les plus endurcis. Il n'existe pas de cœur que la puissance de Dieu ne puisse toucher. Aujourd'hui, on disait c'est mon anniversaire, mais ça fait également 18 ans que j'ai été baptisé. Et il y a 18 ans et un mois, mon cœur était véritablement fermé à l'Évangile. Pour moi, Dieu n'existait pas. Et j'étais prêt à en découdre avec toute personne qui prétendait que Dieu existe. Et pourtant, et j'avais déjà rencontré des chrétiens qui ont frappé à ma porte, tout ça. J'avais même des amis chrétiens. Mais un jour, Dieu a ouvert mon cœur. Alors parfois, les cœurs s'ouvrent rapidement, hein, ça c'est un régal. D'autres fois, cela va prendre des années. Et c'est vrai aussi que parfois, il y a des cœurs qui ne s'ouvrent jamais à l'Évangile. En tout cas, dans ce que nous en percevons. Mais de notre côté, justement, ça c'est aussi important. Nous ne pouvons et nous ne devons jamais présumer qu'une personne est tellement endurcie que jamais son cœur ne s'ouvrira. Parce que l'Esprit de Dieu est puissant. Parce que selon ce que Paul dit aux Romains, en 1,16, Paul dit « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Nous ne verrons peut-être jamais les fruits de notre annonce de l'Évangile, mais en annonçant l'Évangile, nous offrons une opportunité à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu, de toucher un cœur. Et peut-être que nous ne verrons rien, mais un autre frère, une autre sœur fera peut-être de même, d'une autre manière. Et au bout du compte, c'est Dieu qui fera son œuvre. Nous ne devons jamais oublier ça. Au bout du compte, c'est Dieu qui fait son œuvre. Paul disait aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 3, verset 6, il disait « J'ai planté Apollos à arroser, mais c'est Dieu qui fait grandir. » En annonçant l'Évangile, nous ne faisons que semer. Prions pour que la puissance de l'Esprit de Dieu fasse en sorte que ce qui a été semé, cette parole qui a été entendue, puisse germer dans les cœurs. Il n'existe pas de cœur suffisamment résistant pour pouvoir justement résister à la puissance de l'Esprit de Dieu lorsque Dieu veut toucher ce cœur. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous pousse à annoncer l'Évangile. Et c'est aussi un esprit de force, mais c'est également un esprit d'amour. Dieu nous a donné un esprit d'amour. Cela nous conduit à notre quatrième point. Cultivons notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas d'évangélisation. L'amour est la clé de l'évangélisation. Alors, l'amour pour Dieu, hein, premièrement. Si nous n'aimons pas Dieu, comment pouvons-nous parler aux autres de notre merveilleuse rencontre avec Dieu, de notre vie, de notre intimité avec Dieu, si ce n'est pas ce que nous vivons? Il faut connaître, il faut aimer Dieu pour parler de lui avec vérité et avec passion. Je repensais à quelque chose. Est-ce que vous savez que loup collectionne le sable? Je suis en train de chercher le nom. Arénophile? Oh. Loup est un arénophile. Alors, arénophile, enfin, la collection du sable, a priori, hein, rien de passionnant. Mais loup, un jour, chez lui, il m'a montré tout ça. Et loup, c'est sa passion. Et la façon dont loup a présenté ses petites éprouvettes, là, plus les photos macro, etc., mais waouh, mais c'est super intéressant le sable. Je regarde maintenant le sable d'une autre manière. Mais parce que cette passion, eh bien, elle a été communicative. Notre passion pour Dieu peut être communicative. Mais si nous ne sommes pas passionnés par Dieu, si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, difficile hein, de dire à quelqu'un, mais pourquoi tu ne tournes pas vers le Seigneur? Si lui, il ne voit pas. Pourquoi? Justement, il ne voit pas. Pourquoi? Il nous faut d'abord aimer le Seigneur. Et notre amour pour le Seigneur est également quelque chose qui nous conduit à aimer notre prochain. Parce que pour annoncer l'Évangile, il faut également aimer notre prochain. Il faut avoir l'amour pour ceux qui sont perdus. S'ils nous sont indifférents, qu'est-ce qui va nous encourager, nous pousser à leur annoncer l'Évangile? Le devoir? Dieu a dit que, alors je vais le faire. Sans notre amour pour Dieu, sans notre amour pour eux, quel est le message? Qu'est-ce qu'ils vont entendre de nous? Voilà ce que dit toujours Paul aux Corinthiens. Il dit, au chapitre 13, un chapitre qui parle de l'amour, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Et parfois, les gens dans la rue, ils peuvent avoir l'impression qu'on est là pour faire du bruit. Ah, on parle du Seigneur, mais c'est un bruit, c'est pénible. Et ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, c'est qu'on arrête de leur casser les oreilles. Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'ils perçoivent notre amour pour eux et notre amour pour Dieu qui les amène à parler de notre foi. L'évangélisation est la conséquence de notre amour pour Dieu et de notre amour pour notre prochain. Il nous faut donc d'abord entretenir, développer, cultiver notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Et après seulement, nous serons poussés, nous aurons même envie de partager cet amour auprès des gens que Dieu mettra sur notre route. Notre proximité, notre intimité avec Dieu nous remplit d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Mais notre proximité, notre intimité avec Dieu nous permet également d'être en communion avec lui et d'être ainsi à l'écoute de son esprit. Parce que nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour annoncer l'Évangile. Les hommes et les femmes à qui Dieu veut se révéler sont uniques. Ils ont chacun leur propre histoire, leur propre vécu, leurs propres blessures, les propres mensonges auxquels ils croient. Et dans notre évangélisation, nous ne pouvons pas nous contenter, des fois ce serait plus confortable, hein, nous contenter d'appliquer une méthode ou une recette, un truc tout prêt, vous savez, kit d'évangélisation, faites ceci, on en trouve parfois, hein, on a l'impression que ça, faites ceci, cela, la personne se convertira. Oh, super. Nous ne pouvons pas faire l'économie de nous laisser conduire par la sagesse de Dieu. C'est notre cinquième point. Ne cherchons pas à appliquer des recettes, mais laissons-nous conduire par Dieu. Et si nous sommes en communion avec Dieu, il nous conduira, parce que notre Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Alors il existe, j'en ai un petit peu parlé, des tas d'ouvrages, des tas de brochures, des tas de sites internet qui traitent de l'évangélisation. Et sur tout ça, on trouve des tas de choses intéressantes. Nous pouvons prendre connaissance de cela, nous pouvons nous en inspirer pour notre propre évangélisation. Mais prenons garde de ne pas nous contenter de reproduire à la lettre ce que d'autres ont fait de leur côté. Et trop de chrétiens, moi je fais partie de cela, hein, trop de chrétiens renoncent à annoncer l'évangile parce qu'ils pensent que pour évangéliser, il faut faire ceci ou bien cela, et qu'il faut, ou alors qu'il faut suivre des évangélistes, des gens bien connus. Et puis, ben, comme, je pense que je ne suis pas seul, hein, comme aucune de ces méthodes ou aucun de ces modèles ne me correspond, ben, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais non, ça c'est pas pour moi. Et on renonce à annoncer l'évangile. Mais quel dommage! Parce que si on renonce ainsi à annoncer l'évangile, simplement parce qu'on a l'impression que les méthodes d'évangélisation ne nous correspondent pas, alors nous nous privons non seulement de cette aspiration de notre cœur à partager notre foi, mais aussi nous nous privons de l'opportunité de voir Dieu agir au travers de nous. Les méthodes, c'est bien, mais cela ne correspond pas à tout le monde. Je me souviens d'une campagne d'évangélisation, donc là il y avait bien la mention, c'était officiel, hein, c'était une campagne d'évangélisation en région parisienne, et puis c'était une église pionnière, et puis le pasteur avait une drôle d'idée, ils ont une drôle d'idée des fois les pasteurs, et enfin à mon sens, il avait fait fabriquer un panneau comme ça, un homme sandwich, et puis dessus il y avait écrit « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu ». Et puis ce qu'il voulait, c'est quand on était un petit groupe, hein, comme ça. Donc l'idée, c'était, ben, on enfile ça et on va se promener dans la rue. Ah, et moi, je voyais ça, je dis, oh non, pourvu qu'ils ne me demandent pas à moi. Moi, je ne me voyais vraiment pas faire ça. Parce que moi, si je croise quelqu'un dans la rue avec ma personnalité, je vais dire, ça passe pas. Moi, pour moi, c'est une forme agressive. Mais d'autres jeunes qui étaient là, comme moi, je dis, ah, ouais, super. Eux, ils étaient prêts à enfiler ça. Alors moi, déjà... C'est pas déjà moi qui me promènerais comme ça. Et le fait de se promener comme ça dans la rue, il y a peut-être 9 gens sur 10 que ça ne va pas interpeller. Ou plutôt 9 gens sur 10 que ça va choquer. Mais il y en a peut-être un qui, lui, va voir ça et que ça va créer un contact. On n'est pas obligé de tous faire ça, heureusement. Billy Graham, l'évangéliste, probablement le plus connu, lui, a l'habitude de s'adresser à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Tout le monde ne serait pas à l'aise, hein, dans ce rôle, comme ça, de s'adresser à une foule. Nous ne sommes pas obligés de suivre ce modèle. Mais si quelqu'un se sent appelé à ça, ben qu'il y aille. Il n'y a pas de méthode ou de recette universelle d'évangélisation qui nous ferait l'économie, quelque part, de nous mettre sous la sagesse de Dieu, pour que Dieu nous conduise, nous, à notre manière. Nous avons reçu un esprit de sagesse, et nous devons non pas appliquer des recettes ou des méthodes imaginées par d'autres, mais nous devons annoncer l'Évangile d'une manière qui nous correspond, en utilisant les dons que Dieu nous a accordés, et en cherchant à être guidés par son esprit. Certains se sentiront appelés et équipés pour faire de l'évangélisation dans la rue auprès d'inconnus. Mais d'autres, au contraire, se sentiront plutôt à l'aise dans une évangélisation en petits groupes, auprès de gens, d'amis, de gens proches, des gens auprès de qui on peut avoir des conversations profondes. D'autres, ce sera par le chant, l'écriture, la danse. D'autres, par le biais de conversations qui parlent de tout et de rien. Des gens comme ça, on en connaît. Moi, je suis frappé par... Je les envie quelque part. Mais ce n'est pas les dons que Dieu m'a accordés. Eux, ils parlent à deux, trois personnes. Ça fait une minute qu'ils parlent. Ils sont déjà en train de parler de Dieu. Moi, si je fais ça, c'est comme si d'un seul coup, je disais, bon, alors maintenant, je parle de Dieu. Eux, ça vient naturellement. Je ne sais pas comment ils font. Ils parlent de tout et de rien, et ils arrivent à parler de Dieu. Et puis, en règle générale, je veux dire, ben, ça dépend des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous faut cette souplesse. Ne cherchons pas à imiter les autres ou bien à appliquer des méthodes qui ne nous correspondent pas. Ce serait une erreur pour nous, mais ce serait aussi triste et une erreur pour les gens que nous rencontrons. Dieu connaît tout de nous. Dieu connaît tout de vous. Votre personnalité, votre vécu. Vous êtes unique, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous a accordé des dons. C'est-à-dire que Dieu vous a aimé, choisi, préparé, équipé pour accomplir votre mission. Et c'est Dieu qui va mettre sur votre route telle ou telle personne à qui il veut se révéler. Et il veut peut-être se révéler au travers de vous. Non pas au travers de telle méthode, au travers de vous, avec ce que vous êtes, avec votre propre sensibilité, votre vécu, votre regard sur Dieu et sur les gens. Alors dans notre évangélisation, ne cherchons pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas à appliquer des recettes, mais prions pour que la sagesse de Dieu nous éclaire et laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Soyons vrais, honnêtes. Soyons nous-mêmes et témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie et de ce que Dieu peut faire dans la vie des personnes à qui nous nous adressons. En étant nous-mêmes, nous pourrons toucher certaines personnes, sûrement pas tout le monde, certaines personnes. Mais il faut bien que l'on se dise que Dieu n'a pas mis sur nos seules épaules le fait de pouvoir annoncer l'Évangile à telle ou telle personne. L'Église est variée, l'Église est multiple. Nous-mêmes, un jour, nous allons parler à une personne d'une certaine manière. Un jour, un autre frère, une autre sœur va rencontrer cette personne. Il va peut-être lui annoncer l'Évangile d'une autre manière. Nous nous complétons les uns les autres. Soyons nous-mêmes. C'est un témoignage vrai que nous devons raconter, d'où l'importance de notre amour pour Dieu. C'est un témoignage vrai, le nôtre. Et c'est un témoignage d'une bonne nouvelle. Un message d'amour, un message d'espoir, le plus beau des messages. Est-ce que vous connaissez, vous, d'autres messages qui pourraient dire, mais quel que soit l'âge de la personne, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'elle ait fait, Dieu l'aime et Dieu veut la rencontrer. Dieu veut la rétablir dans ce qu'elle est. Il n'y a pas de plus beau message que celui-là. Nous n'avons donc pas à avoir honte de l'Évangile que nous annonçons. Au contraire, nous pouvons en être fiers. Verset 8, il est écrit, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. » Mais pourtant, parfois, n'est-ce pas là le sentiment de honte qui bloque notre évangélisation? Est-ce que ça ne vous arrive pas des fois, ça, quelque part? Mais si jamais nous éprouvons de la honte à l'annonce de l'Évangile, soyons conscients que cela ne peut pas venir de Dieu. Cela ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu n'a pas honte de son œuvre par Jésus-Christ. Dieu est fier de son œuvre par Jésus-Christ. Le sentiment de honte ne peut pas non plus être provoqué par la nature du message que nous annonçons, le contenu de l'Évangile. De quoi devrions-nous avoir honte? C'est justement le plus beau des messages. Un message d'amour, un message d'espoir. Si nous éprouvons de la honte, c'est peut-être que c'est plutôt la manière par laquelle nous concevons l'évangélisation qui ne nous correspond pas. Moi, avec le panneau sur les épaules, j'aurais eu honte dans la rue. Pas à cause du contenu de l'évangile, à cause de la manière. Alors que d'autres seraient très à l'aise avec ces panneaux. Ou bien peut-être que nous avons confondu l'annonce de l'évangile avec la défense d'une religion. Ça nous conduit à notre sixième point. Ne défendons pas une religion, mais témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie. Vous avez tous probablement vu des reportages sur les évangéliques à la télévision. Alors des fois c'est super, depuis quelques années on voit des choses vraiment chouettes. Et puis d'autres fois, c'est pas super du tout. Je suis là, j'ouvre des grands yeux, je dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un peu normal, les médias ont tendance à montrer des choses un peu spectaculaires ou des choses choquantes. Si nous confondons l'annonce de l'évangile avec la promotion ou la défense d'une religion ou bien d'une église, nous risquons d'être paralysés par la honte si jamais l'image qui est véhiculée sur notre église à nos propres yeux ou bien aux yeux des personnes que nous croisons n'est pas bonne. Et Satan fera tout pour que ce soit le cas. Par exemple, nous présentons en tant que chrétiens. Et puis en face, on a quelqu'un qui nous dit « Les chrétiens ? Ah oui, les chrétiens ! Ceux qui ont fait les croisades ! C'est ceux qui continuent à faire encore les croisades maintenant ! » Nous nous présentons en tant que protestants. Les protestants ? Ah oui, les protestants ! C'est ceux qui jettent des grenades dans des écoles catholiques en Irlande. Nous revendiquons notre identité d'évangélique. Les évangéliques, ah oui, oh, j'ai vu un reportage à la télévision. Les évangéliques, ce sont ceux qui hurlent dans les églises et qui prient pour que repoussent des bras et des jambes de gens qui ont été amputés. Certaines étiquettes sont parfois bien embarrassantes à porter. Des étiquettes dont nous avons honte et nous n'osons pas, à cause de cela, annoncer l'évangile. Parce que si jamais nous le faisons, nous allons être étiquetés par ceux que nous croisons. Et cela risque de nous faire honte. Eh bien, débarrassons-nous des étiquettes. Débarrassons-nous de nos étiquettes. Jetons l'étiquette qui nous fait honte et ne conservons qu'une chose, l'évangile dont nous pouvons être fiers. Annoncer l'évangile, ce n'est pas faire la promotion d'une religion ou d'une église, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parlons de Jésus tel que nous le connaissons. Parlons de ce que Jésus a fait dans notre vie. Parlons de ce que Jésus peut faire dans la vie de la personne à laquelle nous nous adressons. Ce qui importe, ce n'est pas que cette personne devienne religieuse, qu'elle adopte une religion ou qu'elle aille dans telle ou telle église. Ce qui importe, c'est qu'elle rencontre Jésus. Et peu importe l'endroit où elle ira, peu importe l'église. Alors bien sûr, si elle vient dans notre église, nous l'accueillerons avec joie. Et puis si elle va ailleurs, prions pour que là, elle soit également accueillie et qu'elle puisse être dans une église où elle pourra grandir à la ressemblance de Christ. Notre rôle n'est pas de faire la promotion d'une religion ou d'une église particulière, mais de rendre témoignage à Jésus. Rendre témoignage à Jésus, c'est le cœur de l'évangélisation. Nous ne pouvons pas évangéliser sans rendre témoignage à Jésus. Et nous confondons parfois la pré-évangélisation avec l'évangélisation tout court. La pré-évangélisation, comme son nom l'indique, c'est ce qui va précéder l'annonce de l'évangile. Nous créons des contacts en invitant des personnes. Nous développons des relations de confiance, d'amitié, qui nous permettront de parler de choses intimes, de choses importantes. Nous aidons les gens à se débarrasser de leurs préjugés sur Dieu, sur la Bible, sur la foi. Nous montrons que notre Dieu agit dans nos cœurs. Alors, tout cela, nous le faisons facilement, parce que cela correspond tout simplement à notre manière de vivre. Aimer les gens et manifester de l'intérêt pour eux, chercher leur bien, pratiquer le bien, ce sont des fruits de la marche avec Jésus. Mais ce n'est pas encore annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, c'est faire un pas de plus, le pas de rendre témoignage à Jésus. Nous imaginons parfois qu'une vie remplie d'amour pour notre prochain est équivalente à annoncer l'Évangile. Mais c'est faux. Une vie remplie d'amour ne va faire que accréditer que Dieu peut transformer les cœurs, si jamais nous manifestons qu'il a transformé le nôtre. Une vie remplie d'amour donne du poids à l'Évangile que nous annonçons. Mais cela ne suffit pas à conduire les gens à Jésus. Prendre par exemple deux exemples, Mère Teresa et Nelson Mandela. Alors, les deux sont des personnes remarquables qui, par leur investissement, par leur vie, ont transformé en bien la vie de millions, de milliers, ou voire même de millions de personnes. Mais il y a cependant une grande différence entre les deux. Parce que la vie de Mère Teresa conduit les gens à se tourner vers Jésus et à rencontrer Christ. Parce que son témoignage de vie, c'est que l'amour de Dieu a transformé son cœur. Et que ce qu'elle vit avec Jésus, d'autres peuvent aussi le vivre. Mère Teresa a un grand Dieu. La vie de Nelson Mandela, elle ne conduit pas à Dieu. En le voyant, on se dit simplement, « Ah, ça, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'admirable. » Nelson Mandela est un grand homme. Alors, j'espère que notre vie à tous reflète que notre cœur a été transformé par Jésus. Amour, bienveillance, honnêteté. Mais si nous ne rendons pas témoignage à Jésus, les gens qui nous voient vivre risquent eux aussi de nous trouver admirables. C'est nous qu'ils voient, c'est nous qu'ils admirent, mais ce n'est pas Jésus. Si notre cœur a été transformé par Jésus, nous devrons à un moment ou à un autre le reconnaître et témoigner auprès de ces personnes qui nous voient vivre que c'est à cause ou par le fruit de notre relation avec Jésus que nous sommes. Ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens admirables. Nous sommes des personnes ordinaires dont Dieu a touché le cœur. Tout comme Dieu peut toucher également leur cœur. Rendons témoignage à Jésus. Rendons gloire à Dieu et rendons-lui le mérite qui lui revient. C'est lui le Dieu d'amour. C'est lui qui touche les cœurs. L'annonce de l'Évangile n'est pas toujours facile, mais nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. C'est notre septième et dernier point. Comptons sur la puissance de Dieu. Il est parfois difficile d'annoncer l'Évangile et même douloureux. Douleur, parce que notre message n'est pas toujours bien reçu. Des fois, il n'est pas bien reçu. Douleur de constater que ceux que nous aimons et qui ont entendu l'Évangile ne se sont pas tournés vers Dieu. Et cela peut nous faire souffrir énormément. Paul dit « Souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Mais l'évangélisation est aussi et surtout une aventure exaltante, passionnante. Elle nous offre l'opportunité de voir la puissance de Dieu agir dans les cœurs. À nouveau, Romains 16, que j'ai déjà cité tout à l'heure, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et cette puissance de Dieu, nous pouvons compter dessus. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous soutenir, malgré les difficultés, malgré notre souffrance. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous conduire, pour nous amener à croiser le chemin des personnes auxquelles il voudrait que nous adressions. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous accorder sa sagesse. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu qui peut nous utiliser avec ce que nous sommes et malgré notre faiblesse. Et nous pouvons compter que la puissance de Dieu est capable de toucher tous les cœurs, même les cœurs les plus résistants, les plus fermés. L'Évangile est une bonne nouvelle. n'en ayons pas honte, mais au contraire, soyons fiers du message que nous apportons. Soyons fiers de notre Dieu. Notre Dieu veut se révéler et manifester sa gloire. Remercions-le d'avoir le privilège d'être les instruments et les témoins de son œuvre. Prions-le pour qu'il crée des opportunités de rencontre. Et aussi, ne forçons pas les choses. Ce n'est pas nous qui convertirons les gens. Des fois, on veut tellement que les gens se convertissent que ça devient fatigant pour les gens qui nous adressons. Témoignons de notre foi, semons. N'oublions pas que celui qui peut toucher les cœurs, ce n'est pas nous. Même si Dieu le fait parfois au travers de nous, le seul qui peut toucher les cœurs, c'est Dieu. Amen.